André Gilles, 20 années de Paris, histoire d'un melon. Par une belle matinée du mois d'août 1868, mon meilleur ami, celui qui partage exactement mes peines et mes joies, et pour tout dire mon linge aussi, était arrêté à l'angle de la rue Vavin, en extase devant un melon. Une outre de jus, un boulet de lumière, un vrai chef-d'œuvre de l'été, qui près de là, liant sa chaleur exagérée et suprême, commençait de rouiller les feuillages du Luxembourg. Il étalait le fruit savoureux, son orgueil obèse au milieu de ses fiers cantaloups, dans la paille dorée et rayonnante, rond comme un astre, ventru, vermeil, énorme et parfumé, la queue en vrille comme un cochon, ballonnant au soleil sa sphère aux côtes rebondies, avec la majesté d'une couronne d'empereur et la joie d'un ruban turban de carnaval. Mon ami, sans doute, avait vu bien d'autres cucurbitacées au cours de sa carrière, sans en être ému. Celui-là fut une révélation. Peut-être aussi faut-il au melon, comme à certains musiciens, plusieurs auditions pour être compris. Alors, ce fut l'audition décisive, car après quelques instants de contemplation, mon meilleur ami pénétra dans la boutique et y déposa sur le comptoir quelques menues monnaies, saisit l'objet de sa convoitise et s'en fut radieux par les rues avec sa conquête. Il faut connaître le vertueux, riant, clair, calme quartier de l'Observatoire pour comprendre le plaisir infini de s'y promener avec un melon sous le bras. Je dis avec un melon parce que ce hors-d'œuvre, considéré par quelques-uns comme le dessert, donne à celui qui le porte un air de bourgeoisie cossue, de citoyen qui a de quoi. D'où il résulte, pour le promeneur, un certain aplomb, une recrudescence d'aise et de nonchalance heureuse dans la marche. Mais, en résumé, le melon n'est pas indispensable. Mon ami se promena donc tranquillement, humant la brise tiède, flânant aux enseignes, regardant les passants. Il se croisa peut-être avec M. Littré, qui a le bon goût de demeurer par là, peut-être avec Michelet, son voisin, lequel vivait encore avec Sainte-Beuve, lancé au trot derrière une fillette. Puis tout à coup, il se souvint que c'était mardi, qu'il avait à faire, comme chaque mardi, son dessin de la lune. Il s'élança vers son domicile. Maintenant que je crois être reconnu, je reprends mon pronom personnel. J'habitais alors la rue d'Assas, dans une maison en briques, un étage au-dessous du logement de Vallès, qui serait bien l'homme le plus tendre, le plus spirituel, le plus charmant et éloquent du monde, n'était la manie qui le tient de ne se croire à l'aise que dans la fumée des batailles ou la gueule des lait des faubourgs. On allait de l'un chez l'autre, on avait de grands rires, des espoirs fous. Le soir à la fenêtre, au ciel pâlissant, on regardait devant soi, à l'angle de la maison, la hure, un grand mur de lierre où venaient se coucher les oiseaux. C'était le bon temps, enfin, passons. J'arrivais avec mon melon pour le moment du déjeuner. Nous nous trouvâmes trois, peut-être quatre, la chanson des Frézelderes avait déconsidéré le nombre trois. La table était dressée, mon acquisition et les honneurs de la séance, et comme, entre soi, quand les nerfs sont détendus, on est aise quelquefois de se laisser aller à la simplicité de l'esprit, comme les grosses plaisanteries sont alors les plus goûtées, tout le chapelet des niaiseries qui se peuvent dire à propos d'un melon fut égrené. En fin de compte, on tomba d'accord qu'il fallait publier son portrait. Le portrait du melon, oui. Dans le journal, parfaitement. puisque la censure interdisait tout. Puisqu'on ne pouvait plus rien risquer d'expressif, il fallait dessiner le melon. Cela ne voudrait rien dire. Qu'importe, et je le fis. Les collectionneurs le retrouveront au numéro 29 bis de la première année de l'éclipse. La lune était l'éclipse, alors, ayant été quelques mois auparavant, contrainte à s'éclipser par la jurisprudence de l'Empire. Le dessin fut présenté le lendemain au ministère. La censure fut magnanime, l'autorisation de paraître fut accordée. Mais dès le surlendemain, nous recevions, au bureau de la publication, l'ordre de comparaître devant un juge d'instruction dont le nom m'échappe, au grand dommage. La nouvelle de cette poursuite fit scandale. Il se trouva juste dans toute la presse un seul être, depuis une arme damnée de Villemessan, pour ne pas nous défendre. Nous étions accusés d'obscénité. Oh, c'était raide! On en parla 8 jours, et la fortune du dessin courut Paris, renforcée des 1000 colibets de la foule, qui a sa façon de légiférer elle aussi. Comme le croquis ne représentait personne, il fut facile d'en appliquer l'intention à tout le monde, et chacun de son côté le fit pour sa bête noire. Rochefort, dans une de ses lanternes, il veut reconnaître Delévaux, ce président de la 6e chambre, qui, après s'être concilié les faveurs de la cour par une série d'arrêts uniques, est enfin rendu comme justice en se crevant d'excès. M. Francisque Sarcey fit un bon article indigné et gaulois, dont je le remercie encore. Et la poursuite fut abandonnée. Voici comment. Au jour indiqué par l'assignation, je me rendis chez le juge. Nous comptions bien sur le procès. N'avais-je pas déjà retenu chez un fruitier un autre melon que je devais présenter au tribunal en arguant de mon innocence par la sienne? Cela peut-être eût été joyeux. Il n'empêche qu'à l'exemple de ce juste atterré sous l'accusation d'avoir volé les tours de Notre-Dame, j'étais mal à l'aise en grimpant les rigides escaliers de pierre et en enfilant les couloirs bourrus du palais de justice. On me fit entrer, asseoir même dans le cabinet aux soupçons. Le greffier poussiéreux, racorni, se tenait prêt à écrire. Le juge dont j'oublie le nom, l'homme de loi, le roi de pique, celui qu'on appelle David chez les tireuses de cartes, une tête pointue, l'œil louche, figure biseautée, m'observait de coin. Il m'interrogea tout à coup. « Vous vous reconnaissez l'auteur d'un dessin représentant un melon auquel il manque une tranche, fuyant devant un crayon et intitulé « Monsieur X deux points » Vous entendez, lecteur, X deux points, c'est-à-dire X trois lettres si l'on veut. Deux points, trois points, je n'y saisissais nullement, X, et je ne sais pourquoi, je répondis, pris d'un subit et providentiel souci de la minutieuse exactitude, ah non, monsieur, X trois points. Bon, fit le magistrat. Il reprit le journal, regarda. Oh, c'est vrai, dit-il. Ben, vous pouvez vous retirer. L'instruction était abandonnée. Thémis désarmé. Comprenez-vous? Moi, j'ai longtemps cherché. Accusation d'obscénité. À force de m'exercer à voir de l'œil du jurisconsulte de cette époque, à entrer, comme on dit, dans la peau du bonhomme, j'ai fini par supposer vaguement. Mais cela est tout à fait impossible à dire.